VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 9 février 2022. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Nanit Salani.
Pour commencer, les titres.
Réunion hier à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU sur le coup d'état militaire au Burkina Faso.
Une trentaine de djihadistes tués par les soldats maliens et la force européenne Takuba dans la zone dite des trois frontières.
En RDC, la présidence évoque des agissements contre la sécurité nationale après l'arrestation samedi de François Biya, son conseiller à la sécurité.
En Libye, le premier ministre Abdelhamid Dbeiba réaffirme qu'il ne cédera le pouvoir qu'à un gouvernement élu, alors que le Parlement se penche demain jeudi sur son remplacement.
Le Sénégal récompense les vainqueurs de la CAN en argent, une prime de 50 millions de francs CFA chacun et en foncier deux terrains à Dakar et Damnadio.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier à huis clos pour discuter du coup d'état militaire au Burkina Faso sans réussir à s'accorder à ce stade sur une déclaration commune. Le point avec Jacques Aristide.
La réunion a eu lieu à la demande du Ghana, du Kenya et du Gabon, les trois membres non permanents du Conseil de sécurité. Mahamat Tassali Anadif, le représentant de l'ONU en Afrique de l'Ouest, a parlé de la nécessité d'une réponse coordonnée après le coup d'État. Il était récemment au Burkina lors d'une mission conjointe avec la CDAO. Il a demandé qu'une feuille de route pour une transition consensuelle et raisonnable soit mise en place pour rétablir l'ordre constitutionnel, indique le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric. Selon un projet de déclaration initié par le Ghana, le Conseil ne condamnerait pas formellement le coup d'État, mais exprimerait sa préoccupation. Il demanderait également un retour à l'ordre constitutionnel au Burkina dès que possible et la libération du président renversé, Roch-Marc Christian Kabore. Toujours d'après ce projet de texte, le Conseil apporterait son plein soutien aux démarches de la CDAO pour un règlement de crise.
Une trentaine de djihadistes ont été tués début février dans la zone des trois frontières par les forces spéciales européennes Takuba et les forces armées maliennes dans une opération conjointe. C'est ce qu'a annoncé hier l'état-major français en pleine période de tensions diplomatiques entre Bamako et Paris, Abdourahman Dia.
C'est la première fois qu'une unité malienne engagée auprès de Takuba obtient un tel bilan opérationnel, a indiqué l'état-major français. L'opération a été menée du 1er au 6 février aux confins du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Elle a permis de saisir de nombreux équipements et composants pour la fabrication d'engins explosifs improvisés. Cette annonce intervient alors que l'avenir de la force européenne Takuba, née en 2020 à l'initiative de Paris, est menacé. La France s'est donnée jusqu'à mi-février pour décider avec ses partenaires européens de l'avenir de leur présence militaire au Mali. Mardi, le premier ministre malien Choguel Kokala Maïga a sévèrement critiqué la France et ses alliés européens. Il les a accusés de diviser le Mali. Par ailleurs, le chef d'état-major de l'armée française, le général Thierry Burkhar, a effectué lundi une visite en Côte d'Ivoire pour parler de lutte antiterroriste. Depuis l'expulsion de l'ambassadeur français par Bamako, Paris s'était donné 2 semaines pour trouver une solution à sa présence militaire au Mali.
En RDC, un député a été arrêté mardi dans le Nord Kivu, province de l'Est sous état de siège, pour incitation à la désobéissance et outrage à l'armée, a-t-on appris lors de sa comparution immédiate devant une cour militaire. Josué Mufula, député de Goma et membre du FCC, qui regroupe les partisans de l'ex-président Joseph Kabila, a été interpellé alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion pour Kinshasa. J'ai été débarqué de mon vol, je ne sais pas pourquoi, c'est la terreur militaire qui règne, a protesté le député dans un message audio envoyé aux journalistes.
Par ailleurs, à Kinshasa, la présidence congolaise a affirmé hier, après l'arrestation samedi de son conseiller à la sécurité François Béa, que les enquêteurs ont des indices sérieux attestant d'agissements contre la sécurité nationale. Le point avec Rosine Munezero.
Les enquêtes se poursuivent et s'effectuent à différents niveaux, selon Tarsis Kasongo Moema, porte-parole du président Félix Tshisekedi sur la radio-télévision nationale. Aucune tentative de déstabilisation de nos institutions ne sera tolérée, assure la présidence à Kinshasa, qui demande à la population de garder son calme. Les autorités n'ont jusque-là livré aucune information sur l'interpellation de François Béa, alias Fantomas, conseiller spécial en matière de sécurité, entendu depuis samedi dans les locaux de l'Agence nationale des renseignements. Toutefois, a-t-il poursuivi, dans l'état actuel des choses, on peut affirmer que les enquêteurs disposent d'indices sérieux attestant d'agissements contre la sécurité nationale, sans plus de précision. Il ajoute que durant le temps de l'enquête, il est demandé à la population de garder son calme et de vaquer sereinement à ses occupations.
François Béa, 67 ans, a été chef de la Direction générale de migration sous le régime de l'ex-président Joseph Kabila avant de devenir en 2019 le monsieur sécurité de son successeur Félix Tshisekedi.
La Cour internationale de justice statue ce mercredi sur le montant des réparations que doit verser l'Ouganda à la République démocratique du Congo pour l'invasion de l'est de son territoire lors de la guerre de 1998-2003. Kinshasa réclame plus de 11 milliards de dollars, un montant qualifié d'exorbitant par Kampala. Ce conflit a impliqué jusqu'à 9 pays africains, parmi lesquels l'Ouganda et le Rwanda, qui soutenaient des forces rebelles dans l'est du pays, riches en minerais.
Un juge de l'ONU a décidé de renvoyer, jusqu'à leur transfert dans un autre État, 8 ex-dignitaires du régime Hutu du Rwanda responsable du génocide des Tutsis en 1994 vers Arusha en Tanzanie après une décision du Niger de ne plus les accueillir sur son sol. 4 des 8 Rwandais ont été acquittés par le Tribunal pénal international pour le Rwanda et les 4 autres ont purgé la peine à laquelle ce tribunal les avait condamnés.
En Libye, le premier ministre intérimaire Abdelhamid Beba a réaffirmé mardi qu'il ne céderait le pouvoir qu'à un gouvernement sorti des urnes, alors que le Parlement se penche jeudi sur son remplacement en plein chaos institutionnel. « Je n'accepterai aucune nouvelle phase de transition ou autorité parallèle », a déclaré le Premier ministre dans un discours télévisé.
Le Mozambique, dont les côtes ont été ravagées par la montée des vagues et les tempêtes tropicales, a annoncé hier son intention de lancer le plus important projet de reboisement de mangroves d'Afrique visant à planter 100 millions d'arbres d'ici 30 ans et couvrant 185 000 hectares de forêts de mangroves, soit la taille de Paris, Manhattan et Londres réunis.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Canada, la Saskatchewan, province du centre, et le Québec ont annoncé hier des allègements aux restrictions sanitaires réclamées par les manifestants qui occupent la capitale fédérale Ottawa et certaines autoroutes du pays depuis plus de 10 jours. Les détails avec Lionel Gaïma.
Il est temps que les exigences de preuve de vaccination prennent fin, a déclaré Scott Moe, premier ministre de la province de Saskatchewan. Au Canada, les questions de santé sont gérées par les provinces. Le passeport vaccinal, obligatoire dans les entreprises, commerces et lieux publics de la province, sera abandonné de lundi prochain. L'obligation du port de masque sera levée à la fin du mois. Avoir été privé de rassemblements privés pendant un mois, les Québécois pourront recevoir chez eux. Les commerces seront autorisés à rouvrir. Toutefois, le passeport vaccinal et le masque sont là pour rester, a prévenu Christian Dubé, ministre québécois de la Santé. À Ottawa, la capitale, au 12e jour de blocage des rues menant au Parlement, le premier ministre Justin Trudeau a appelé à la levée du siège. Mais les manifestants se disent encore plus déterminés à rester pour défendre leur liberté.
Éviter une guerre en Europe, la France, l'Allemagne et la Pologne ont affiché hier leur objectif commun et leur unité après un marathon diplomatique d'Emmanuel Macron, le président français, qui assure voir des solutions concrètes à la crise russo-occidentale liée à l'Ukraine. La Minute Éco, Rosine Mounezero.
En visite au Cameroun, le directeur général de l'Agence française de développement, Rémi Riou, a signé un accord cadre multitranche d'un montant de 150 millions d'euros au titre du prêt de soutien budgétaire octroyé par la France à l'État du Cameroun. Cet accord est assorti d'un premier décaissement de 70 millions d'euros. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a assuré que l'Europe est le partenaire le plus fiable de l'Afrique. Madame von der Leyen indique qu'elle annoncera au Sénégal, où elle va rencontrer le président Macky Sall demain jeudi, la nouvelle stratégie européenne d'investissement Global Gateway, qui entend mobiliser d'ici à 2027 jusqu'à 300 milliards d'euros de fonds publics et privés dans des projets d'infrastructure à travers le monde. Les États-Unis ont annoncé mardi avoir récupéré plus de 94 000 bitcoins volés en 2016 à la plateforme d'échange virtuel Bitfinex et évalué aujourd'hui à 3,6 milliards de dollars, un montant record pour une saisie judiciaire. Un couple de trentenaires new-yorkais soupçonné d'avoir cherché à blanchir les bitcoins dérobés via des transactions complexes en crypto-monnaie a été arrêté mardi matin à Manhattan. Les autorités affirment que l'enquête se poursuit sans vouloir se prononcer sur l'auteur du piratage initial.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Le président sénégalais Macky Sall a récompensé hier les joueurs de l'équipe nationale de football vainqueurs pour la première fois de la CAN. Les joueurs et les membres de la délégation recevront une prime de 50 millions de francs CFA chacun. Un terrain de 200 mètres carrés à Dakar et un autre de 500 mètres carrés dans la ville nouvelle de Diamdiadio. Le président sénégalais a décidé de décorer les joueurs et l'ensemble des membres de la délégation, soit plus de 60 personnes dans l'ordre national du Lion ou de les y élever en grade pour ceux qui avaient déjà été distingués par le passé. Macky Sall tourne désormais ses yeux vers le Mondial 2022 au Qatar à la fin de l'année. « Aliou, je ne vous demande pas de gagner la Coupe du Monde, mais une place en demi-finale », a-t-il dit. Le Sénégal devra d'abord se qualifier et cela passera par un barrage fin mars, encore contre l'Égypte. Accueil également au Burkina Faso, le chef de la junte Paul-Henri Sandaogo Damiba a reçu hier les étalons au palais présidentiel après leur quatrième place à la Coupe d'Afrique des Nations. Après un beau parcours entaché par la défaite au tir au but en match de classement face au Cameroun alors qu'il menait 3-0 jusqu'à la 70e minute, le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, chef de la junte, a invité les joueurs à travailler davantage.
Soit on s'assoit sur la défaite, soit on se relève pour travailler pour les victoires. Donc je pense qu'il n'y a qu'une seule alternative pour vous, c'est l'alternative de vous remettre debout, vous tenir et puis regarder vers comment on peut engranger des victoires futures.
Paul-Henri Sandaogo, chef de la junte au Burkina Faso. Un message bien reçu selon Bertrand Traoré, capitaine des étalons.
On apprend beaucoup de cette CAN, on sort grandi de cette CAN. On doit prendre toutes les erreurs qu'on a eu à commettre durant cette CAN pour pouvoir grandir, améliorer notre équipe et avoir de meilleurs résultats dans les compétitions à venir.
Bertrand Traoré, capitaine des étalons du Burkina Faso. L'international marocain Hakim Ziyech, 28 ans, en conflit avec son sélectionneur Vahid Halilhodžić, annonce qu'il ne jouerait plus avec l'équipe nationale. « Je ne retournerai pas en sélection nationale, c'est ma décision finale, c'est assez clair pour moi, je me concentre sur mon club », a déclaré le milieu offensif de Chelsea hier à la veille de la demi-finale du Mondial des clubs qui opposera les Blues aux Saoudiens d'Al Hilal à Abu Dhabi. La star marocaine brouillée avec le sélectionneur des Lions de l'Atlas n'a pas été convoquée pour la CAN. Vahid Halilhodžić justifie la non-convocation du milieu de terrain à la CAN par son manque de discipline. Basketball pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Les LA Lakers ont été massacrés par les Milwaukee Bucks, champions en titre 131 à 116. Philadelphie succombe à Phoenix 114 à 109. Atlanta et Indiana 133 à 112. Boston et Brooklyn Nets 126 à 91. Memphis et LA Clippers 135 à 109. La Nouvelle-Orléans et Houston 110 à 97.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'équipe nationale de football du Sénégal a reçu hier les honneurs de la République lors d'une cérémonie officielle au palais présidentiel de Dakar. Oui, nous y revenons. Les champions d'Afrique ont été gâtés par le président sénégalais Macky Sall, nous dit notre correspondant à Dakar, Sédina Abagué.
À tout seigneur, tout honneur, dit-on, en reconnaissance des éminents services que vous avez rendus à la nation, j'ai décidé de décorer à titre exceptionnel l'ensemble des membres de la délégation officielle dans l'Ordre national du Lion.
Grand Croix, commandeurs et officiers, les Lions, leur staff et les membres de la délégation officielle du Sénégal à la CAN Cameroun 2021 ont été décorés dans l'Ordre national du Lion avant de recevoir une prime spéciale du président de la République.
Les joueurs et autres membres de la délégation officielle recevront chacun une prime spéciale de 50 millions de francs CFA et un terrain de 200 mètres carrés à Dakar. En outre, ils recevront également chacun un terrain de 500 mètres carrés dans le premier arrondissement de la nouvelle ville de Diamniadio pour former la cité de la Tanière en souvenir de ce premier sac à la CAN.
Très fier de lui et de ses coéquipiers, le capitaine Kalidou Koulibaly a une nouvelle fois salué l'engagement des autorités, mais aussi et surtout le soutien et la mobilisation exceptionnelle du peuple sénégalais.
L'histoire retiendra que vous êtes le président de la fédération qui a remporté la première CAN de notre pays. À travers vous, nos remerciements s'adressent à tous les membres de la Fédération sénégalaise de football. Merci, un grand merci à notre coach Aliou Cissé. Coach, tu as été un capitaine courage, tu es désormais un coach champion. Ton staff et toi avez été d'un grand apport dans notre victoire. Vous avez travaillé minutieusement avec patriotisme, abnégation, mais surtout avec confiance. Le résultat est là. Merci à nos supporters, 12e guindé. Monsieur le Président, nous voulons garder le meilleur pour la fin. En adressant un mille
merci au peuple sénégalais. Debout comme un seul homme et derrière nous depuis le début du tournoi. Cette victoire a été possible grâce à leur soutien, leurs prières, leurs bénédictions et leur mobilisation sans faille. L'accueil mémorable que le peuple nous a réservé hier a dépassé toutes nos attentes, même les plus inimaginables. Nous en avons encore des frissons aujourd'hui.
De son côté, Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, se projette déjà sur les défis futurs.
Devant vous et devant le peuple sénégalais. Que reste-t-il d'autre, Monsieur le Président, que vous dire que vous nous avez montré la voie, le chemin qui mène à la conquête des trophées? Sachez qu'en bon lion, nous ne serons pas rassasiés. Nous essaierons au plus tôt et pendant le plus longtemps possible de vous ramener d'autres trophées. Le lion a été patient, mais le lion a goûté à la saveur du trophée continental. Il en cherchera d'autres. Ce seront certainement des trophées plus importants, mais aussi ce trophée qui reviendra très souvent dans notre pays. Et pourquoi pas bientôt, Monsieur le Président, avec cette génération qui peut nous valoir plus qu'un trophée continental, nous qualifier contre les pharaons d'Égypte dans un mois et aller à la conquête du monde et essayer de donner au peuple sénégalais des résultats qu'aucune équipe africaine n'a jamais réalisé. Nous, fédération, et je veux parler aussi au nom des joueurs et de l'encadrement, nous sommes prêts à relever ce défi.
Après avoir remporté la première CAN de l'histoire du Sénégal, Aliou Cissé et ses Lions ont reçu un accueil chaleureux et exceptionnel du peuple sénégalais, les honneurs de la République et une prime spéciale du président de la République. Sédina Bagué à Dakar pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, une année de défis pour l'Union africaine. À alors que le Congolais Félix Tshisekedi a passé le témoin au Sénégalais Macky Sall ce week-end, l'organisation continentale souhaite consolider l'intégration économique, la démocratie et mettre un terme au coup d'État. Quatre pays, le Soudan, le Mali, la Guinée et le Burkina, sont suspendus de l'Union africaine après des putschs. Quelle réponse de l'UA pour faire face à ces multiples défis? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.com.
Au Nigeria, le carburant manque à la pompe dans la capitale fédérale Abuja. De nombreux automobilistes ont du mal à acheter du carburant car plusieurs stations sont soit fermées, soit partiellement exploitées. Ce qui est un paradoxe pour le premier producteur de pétrole du continent africain. Reportage de notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
La crise fait suite à un bras de fer entre les autorités fédérales et les centrales syndicales sur la suppression des subventions au carburant. Ces derniers mois, des commerçants indépendants de produits pétroliers se sont livrés à des actes spéculatifs dans le but d'augmenter les prix de l'or noir, provoquant une pénurie artificielle et plongeant la capitale dans un manque sérieux de carburant. Elimina est propriétaire de taxi.
Je suis un taximaître et je dois sortir pour aller travailler. Mais imaginez-vous lorsque vous sortez et que vous ne pouvez pas travailler. Je ne travaille pas pour le gouvernement, je travaille pour moi-même. Donc ces longues files d'attente m'affectent.
C'est pareil pour Emmanuel Okechi, un habitant d'Abuja.
Je suis là depuis 1h30. Je ne sais pas pourquoi ces longues files d'attente. Je pense que la raison pour tout cela est que les gens n'ont pas confiance au gouvernement. Le gouvernement dit qu'il n'y a pas de crise de carburant. Mais pourquoi toutes ces longues files d'attente?
La plupart des stations-service sont fermées, tandis que de longues files d'attente persistent dans les points de vente des autoroutes et dans les quartiers de la capitale fédérale. Le gouvernement nigérian avait proposé de supprimer des subventions au carburant qui siphonnent chaque année des milliards de dollars des caisses de l'État, mais qui permettent aux stations-service de vendre de l'essence à bas prix pour les Nigérians. Emmanuel Edje, chauffeur de taxi.
La suspension de subventions au carburant pour 18 mois par le gouvernement, c'est cela qui a provoqué cette crise dans les stations-service. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui vendent le fuel dans la rue. Vous gagnez plus dans la rue que dans les stations-service.
Les autorités fédérales ont renoncé encore une fois à la suppression des subventions sur le carburant un an avant l'élection présidentielle de 2023. Un sujet qui reste aussi très sensible et donc potentiellement explosif, les Nigériens considérant l'accès au carburant bon marché comme un des rares privilèges qu'ils tirent de leur puissance pétrolière. Pasteur Victor Ofem habite à Abuja.
La crise nous affecte sérieusement. J'ai dépensé plus aujourd'hui que d'habitude. Et puis, mon business aussi ne marche pas ces deux jours parce que les gens n'arrivent pas à sortir à cause du manque de carburant. D'habitude, je paye 200 naira comme transport pour venir ici à mon lieu de travail. Mais ce matin, j'ai payé 300 naira.
L'Agence nationale du pétrole, la NNPC, affirme qu'elle avait suffisamment d'essence en stock et a exhorté les consommateurs à ne pas sombrer dans la panique. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Au Gabon, l'état d'urgence sanitaire, encore prorogé de 45 jours, ainsi en a décidé le Parlement, qui répondait à une demande du gouvernement. La mesure viserait à mieux lutter contre la propagation du coronavirus. Faux, rétorque la société civile qui appelle à des mobilisations afin d'exiger de leurs élus des moyens pour supporter les coûts de cette nouvelle période de restriction. Reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Au quartier Louis, comme dans bien d'autres secteurs chauds de la capitale gabonaise, des rafles de contrevenants au couvre-feu sont régulières.
Madame, c'est vous qui faites en sorte que notre travail soit un fruit. Une convocation sera de propriétaires, On va se pointer.
Il s'agit d'une opération coup de poing visant les débuts de boissons qui tournent clandestinement dans la ville. Les militaires qui la conduisent sur le terrain obéissent aux instructions du secrétariat général du ministère gabonais de la Défense, colonel Félicien Koyi, secrétaire général adjoint 2 du dit ministère.
Les agents des forces de défense et de sécurité, instruits pour assurer la mise en œuvre des mesures gouvernementales, sont invités à une plus grande rigueur lors des opérations de contrôle afin de limiter les mouvements des populations aux heures du couvre-feu.
Dans les rues et quartiers de la capitale gabonaise, c'est la lassitude après 2 ans d'état d'urgence sanitaire.
On a affaire à des puissances qui sont tapies dans l'ombre. Et quand ils dictent leurs lois, nous en souffrons tous.
C'est vrai que c'est contraignant, il faut être... Il faut rentrer tôt. Certaines personnes qui vont chercher les enfants à l'école, c'est pas toujours évident.
Ah, ça nous embête. Plus que la journée, dès qu'il y a déjà midi, c'est le journée est déjà fini.
C'est vrai que c'est une mesure qui est prise vu selon les nouveaux cas qui ont été recensés. Et c'est une manière au moins que le gouvernement trouve pour pouvoir... parler à cette situation.
À la suite de la nouvelle prolongation de l'état d'urgence sanitaire adoptée en Conseil des ministres et votée par le Parlement pour 45 jours supplémentaires, une organisation des acteurs de la société civile est montée au créneau. La déclaration est lue par leur porte-parole, Geoffroy Fumbula Libeka.
Le Copé citoyen invite les Gabonais à interpeller de façon citoyenne, en utilisant les moyens légaux, leurs élus respectifs, afin de les sensibiliser sur leurs responsabilités à assumer. Pour le compte des populations qu'ils sont censés représenter, les coûts liés à la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, notamment la prise en charge des tests PCR.
Dans leur démarche, les acteurs de la société civile incriminent tout aussi le Parlement à qui ils reprochent une complicité avec le gouvernement qui maintient le pays sous état d'urgence sanitaire depuis plus de 2 ans. Libreville, Ismaël Obianze pour VOA Afrique.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seboudia et Nanit Talani, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnot, et à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Thank you.